Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Vous écoutez du Trisac. Cube Radio.
Alexandre Dubé est avec nous pour faire le tour de l'actualité. Alexandre, bonjour.
Salut Benoît.
Bon, des bons chiffres pour le bilan COVID dans ce lundi?
Oui, en tout cas, au niveau des cas, là, ça baisse, 324 cas. Par contre, tous les autres indicateurs montent, Benoît. 5 décès supplémentaires, 9 hospitalisations de plus pour un total de 259, 4 de plus aux soins intensifs, 69. Autour de 20 600 tests au cours de la fin de semaine. Et les doses, là, ça baisse, là, à peu près un peu juste en bas de 5 000 doses. Et ça survient... Alors que François Legault, avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy, ce matin à Cube Radio, ne ferme pas la porte à un autre report de l'échéance du 15 novembre pour la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Ça, je dois t'avouer que j'ai sursauté, parce que là, ça va être quoi? Là, si c'est pas le 15 novembre, ah, ben je sais pas, ça va être le 15 décembre? Ah, puis après ça, ben le 15 janvier. Ah, ben, 15 février. Ça sert à quoi de donner des ultimatums lorsqu'on ne les respecte pas? Ultimement, à un moment donné, ben c'est la crédibilité aussi du gouvernement. Une fois, je peux comprendre. Deux fois, il y a des questions à se poser.
Sais-tu ce qui manque dans le bilan COVID à chaque jour? Puis là, ouais. Je le réalise après l'entrevue de vendredi là avec docteur, j'oublie son nom, là, qui a la COVID longue. Puis on a, tu sais, il y a jamais de diagnostic. On sait pas, il y en a combien. On parle de 40 000. Puis écoute, elle me parlait, là, elle était essoufflée.
Ah ouais, ça c'est pas drôle. Puis ceux qui ont ça, là.
Mais d'aplomb, là. Puis là, Anne Behrer, c'est ça, docteur Anne Behrer, merci. Et puis il y a pas de bilan de diagnostic de COVID longue.
Ouais.
Et je pense qu'il serait temps qu'on en ait un au Québec.
Ouais. Ouais, parce que ça c'est honnêtement ceux qui ont cette forme du virus là et les conséquences qui en suivent, c'est épouvantable. Tu traînes ça pendant des mois, t'as plus de capacité pulmonaire, t'es plus fonctionnel, tu peux à peine plus travailler.
Non mais elle me disait, elle disait que ses poumons étaient en bon état, mais c'est le sang qui se rend pas, l'oxygène dans le sang qui se rend pas. Puis elle me disait qu'elle avait les pieds bleus pendant qu'elle me parlait.
Parce que la circulation sanguine ne se fait pas?
Ça se fait pas complètement. Alors, tu sais, là, on sait pas, c'est le flou. Puis pendant qu'on donne le bilan COVID du jour, Horacio Arruda pourrait commencer à s'intéresser à ce problème de santé publique qui est la COVID longue.
Et il faudra accompagner ces gens-là de façon adéquate aussi. Hein. Il y a très peu de ressources en ce moment là-dessus. Ça a été dénoncé là, publiquement d'ailleurs. Il faudra s'y attarder à ça.
Bon, il y a une mère monoparentale, ça c'est triste, de 3 enfants qui meurent de la COVID.
Une avocate, mère monoparentale de 47 ans du Grand Montréal qui a succombé à la COVID. Elle est morte le mois dernier, le 27 septembre. Elle laisse ses 3 enfants orphelins, des enfants âgés de 15, 10 et 7 ans. Orphelins parce qu'il y a 5 ans, le mari, donc, de la dame en question, est décédé, lui, d'un cancer. La victime, dans ce cas-ci, elle s'appelle Lydie Magali Stiverne. Et dans le journal, ce matin, c'est une amie de cette dame-là qui a accepté de parler pour lancer un message, entre autres aux Québécois qui hésitaient à se faire vacciner ou qui ne prennent pas de précautions pendant la pandémie. Et les proches de madame, dont Lydie Magali Stiverne, ignorent si la mère monoparentale était vaccinée ou non. Là, il y a un flou par rapport à ça, mais quand même, ses proches ont tenu à faire ce message-là en disant, ceux qui sont pas vaccinés contre la COVID, là, ben, posez-vous donc la question, avez-vous le luxe de jouer à la roulette russe avec ça? Voulez-vous vraiment prendre ce risque-là? C'est elle qui dit ça. On a un vaccin qui est offert gratuitement et dans ce cas-ci, ben, les conséquences auraient pu, tout dépendant si c'est démontré, si elles ne l'étaient pas, être dramatiques. Maintenant, comment ça s'est passé pour elle? La journée de son hospitalisation, elle était incapable de respirer. Le lendemain, lendemain, la dame de 47 ans aurait dit à son amie qu'elle allait mieux, mais qu'elle avait mal partout. Et quelques minutes plus tard, là, ça change vite, là, elle la retexte encore pour lui dire qu'elle s'en allait direct aux soins intensifs parce qu'elle manquait d'oxygène et finalement, ben, placée dans un coma. Et elle est décédée. Puis ça laisse trois enfants orphelins aujourd'hui.
Mmh. Bon, et il y a un rapport accablant sur la situation vécue dans nos hôpitaux. Puis tantôt, j'ai fait une entrevue avec la présidente des médecins d'urgence. Mm-hmm. Là, tu te rends compte qu'il va falloir que les directions d'établissements de santé rendent des comptes.
Tu sais, moi, quand je regarde des choses comme ça, je me dis, s'il y avait moins de gratteux de papier dans les bureaux puis davantage de personnes sur le plancher là, mm-hmm. qui offrent des services à la population... Peut-être que ça irait mieux dans notre système de santé. Je sais pas, je te pose la question. Mais quand on regarde le portrait global de la situation, donc le ministère a visité les pires établissements hospitaliers pour comprendre un peu comment ils fonctionnaient, pourquoi ils étaient dans cette situation-là. Donc les premiers rapports nous démontrent plusieurs problèmes dans 6 hôpitaux de la région du Grand Montréal. On souligne entre autres un manque flagrant d'organisation. Pourtant, la quantité de personnes qu'il y a dans l'organigramme d'un 6 puis d'un 6, je peux pas croire qu'il y en a pas 2-3 qui sont capables de faire un horaire comme du monde.
Puis au ministère? T'sais, au ministère aussi.
Au ministère, c'est quasiment encore pire. Donc, manque flagrant d'organisation, une pénurie de personnel, ça, on le sait, puis on est en train de régler le problème, et une mauvaise gestion des effectifs. Tu vois, 2 des 3 facteurs ciblent l'organisationnel.
Ouais, c'est
cette espèce de gros mammouth là avec une gang de gratteux de papier là, de fonctionnaires, et qui sont occupés, là, tu sais, on peut-tu mettre les efforts aux bons endroits et donner les ressources aux gens qui aident les patients, les infirmières préposées aux bénéficiaires, les médecins, etc., etc. Et on signale là-dedans que la difficulté de prendre des rendez-vous en clinique, ben ça ajoute à la pression des hôpitaux. Là, tu peux faire là, 3-4 boîtes vocales avant d'obtenir un rendez-vous, parler à quelqu'un. Donc, un patient qui pourrait retourner à la maison et être suivi en clinique externe, ben on l'hospitalise quand même. Donc, on occupe un lit. La pénurie de personnel, ça empire la situation. Et reste aussi que, selon des acteurs du milieu, c'est la gestion de l'organisation qui fait défaut. Alors, encore une fois, on tape sur ce clou-là, mais Benoît, visiblement, selon ces rapports-là, avec raison.
Mais on sait jamais, on tape sur un clou, mais le clou, il est virtuel. Parce que jamais personne nulle part qui est redevable, responsable de rien.
Ouais. Mais ça, les choses sont appelées à changer. Là, parce que pendant la pandémie, il n'y avait pas personne de responsable dans les CHSLD.
Ouais,
et puis là, le ministre Christian Dubé a voulu mettre un patron à chaque endroit pour dire, si ça va pas, ben c'est toi, Charlie, qui est imputable de ça.
Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si c'est imputable? Ben là, on ne payera pas le lunch ce midi?
Non, mais t'as plus de compte à... Non, mais t'sais, mettons, là, tu peux te cacher derrière...
Mais peux-tu te faire crisser dehors si t'es pas bon dans ta job?
Il y en a eu, Benoît. Ben. Mais t'sais, t'es pas mal plus imputable quand ça repose sur tes épaules que tu te caches derrière un gros organigramme qu'une chatte te reconnaîtrait même pas ses petits, là.
Mm-hmm. Bon, t'as mis le mot chat dans la conversation, tout va bien.
Oui, j'avais, oui, c'est ouais,
avec
un défi.
Les petits aussi, là. T'as mis les animaux là-dedans. Moi, là, je suis perdu. Est-ce qu'on finit sur la refonte du cours d'éthique et de culture religieuse, la disparition, heureusement?
Oui, oui. Ben, ça a été annoncé hier par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Plusieurs réactions, là, depuis. Je t'en présente quelques-unes. On se demande, est-ce que comment la religion va être abordée. La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants a certaines réserves devant la mouture du cours. On s'inquiète que l'éducation soit politisée par le gouvernement Legault. Et là, il y a la communauté anglophone qui se dit, ben ce sera quoi notre place là-dedans? Mais quand tu regardes ça là, objectivement, là, un programme qui est axé sur la culture, la citoyenneté québécoise et le dialogue et la pensée critique, c'est extrêmement utile dans la société d'aujourd'hui. De quelle façon on va l'implanter? Ben, dès septembre 2022, et le cours va être obligatoire l'année suivante. Moi, je me rapporte là à mon secondaire, Benoît. Ça fait quand même plusieurs années, là. Ça fait au-delà de 15-16 ans.
Ouais,
ben, on vieillit, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, les cours d'économie familiale où on m'apprenait à coudre une paire de boxers. Très sincèrement, Benoît, là, je n'ai jamais reconfectionné une autre paire de boxers de ma vie depuis. Pourquoi on ne m'a pas appris à faire un budget, par exemple? Tu sais, des trucs là, qui vont me servir dans la vie de tous les jours en tant qu'adulte. Même chose pour le cours d'éducation sexuelle. Et moi, je voyais un peu là, les grandes lignes là, dans le programme qu'on veut faire. Donc, culture, très bien. Parce que comment on peut ne pas, par exemple, comme jeune Québécois, s'identifier, parce que tu sais, de nos jours, là, ça écoute toutes sortes de musique des États-Unis ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important que pour s'identifier à la culture québécoise, encore faut-il la connaître comme il faut. Ouais. Citoyenneté québécoise, et c'est là que je m'en allais avec l'éducation sexuelle, toute la notion de consentement, d'exploitation sexuelle, de l'égalité des sexes. Tu sais, un cours d'éducation sexuelle, là, c'est pas juste de mettre un condom sur une banane pour nous expliquer comment on faisait ça. T'sais, je me rapporte là des années en arrière. J'ose croire que ça a évolué depuis. Mais toute la question du consentement dans cette ère de dénonciation de comportement sexuel et on veut que la société change. Alors ça, c'est intéressant. Et l'autre, dialogue et pensée critique, Benoît. La dernière fois que t'es allé faire un tour sur les réseaux sociaux, là, ça vole pas haut, hein?
La pensée critique?
La pensée critique, non, l'art de débattre avec respect, de ne pas insulter l'autre. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, peu importe l'âge, qui auraient tout intérêt à suivre ce cours.
Bon, mais ça s'en vient, c'est pour l'automne 2023. Alex Dubé, merci. À mercredi.
Oui, salut Benoît, à mercredi. Salut.